Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud de tout ce qui fait la vie quotidienne. Aujourd'hui, les intellos devenus artisans, ultra diplômés, ils étaient cadres très supérieurs dans une autre existence et ils ont décidé à mi-parcours de devenir mécaniciens, plombiers, apiculteurs, ébénistes. Ils racontent, elles racontent aussi, pourquoi ils ont eu envie d'un retour à la matière, l'intelligence de la main, tous la défendent, même si leur entourage ne comprend pas toujours le choix d'un certain déclassement social. Manager devenu manuel en bleu de travail, sans faux col blanc. Bonjour Laurence Descréaux.
Bonjour.
Vous publiez une ode à ces métiers manuels, ça s'appelle l'élégance de la clé de 12, oui. Précisément parce que vous-même avez toujours été nul avec vos 10 doigts.
Totalement.
C'est ça, on va annoncer la couleur dès le début, si ce n'est peut-être pour écrire et raconter le talent des autres, ce qui est également d'ailleurs savoir écrire, taper sur un clavier d'ordinateur, manier les mots.
Vous dites c'est aussi une forme d'artisanat.
D'artisanat,
oui,
voilà,
si on ne
s'appelle pas Flaubert. Manager devenu manuel. Olivier Berton, vous êtes diplômé d'HEC, bonjour.
Bonjour.
Directeur des ventes internationales dans une entreprise de l'agroalimentaire. Ça, c'était dans l'autre vie. Vous êtes devenu plombier chauffagiste après 2 CAP.
Oui.
C'est bien ça.
Voilà, aux alentours de 40 ans, un tournant dans ma vie, une reprise en main de choses qui me paraissaient plus essentielles et surtout ma destinée.
C'est ça.
Que je pilote totalement.
C'est ça, depuis le début, je regarde vos mains dans le studio, effectivement, ce sont des mains de Manuel. Quand vous annoncez ça dans un dîner parisien, vous rencontrez des gens qui ne vous connaissent pas, ça donne quoi comme ambiance?
Deux choses, pour ceux qui me connaissent un peu, qui font partie de mon milieu, un étonnement, mais en même temps une confiance dans mes capacités à le faire, et pour ceux qui ne me connaissent pas, une espèce d'incrédulité, comment c'est possible, est-ce que c'est pas un paumé total.
Fred, c'est ça?
Ouais.
Estampillé grande école de commerce également, vous étiez directeur de marketing digital, vous êtes devenu mécanicien, mais alors plus précisément customiseur de motos, cofondateur de la société Blitz Motorcycles. Oui. Donc CAP de mécanique, là aussi.
Voilà, alors moi en l'occurrence c'était à 30 ans, mais c'était une envie qui a germé en moi très tôt, que j'ai pas écouté pendant longtemps, parce qu'on m'a dit d'aller là où je devais aller, donc j'ai suivi tout ça, et j'ai jamais regretté. Et puis à un moment, voilà, le besoin de faire quelque chose de très concret, en l'occurrence réparer ma vieille moto, parce que je venais de m'acheter une vieille moto, qui n'est jamais tombée en panne en fait. Depuis 10 ans, elle n'est jamais tombée en panne celle-là. Mais ça m'a amené à faire...
Vous avez fait le CAP mécanique pour ça au départ.
Oui. La seule motivation c'était de me dire je veux pouvoir être autonome, ne pas dépendre d'un garagiste dont tout le monde dit que ce sont des gougnafiers.
Et donc vous êtes devenu gougnafier,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
Bon, alors vous allez nous raconter votre parcours, mais surtout aussi le regard que vous portez sur la société actuelle et sur la hiérarchie des métiers. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous si vous avez des trajectoires similaires. Et sinon, est-ce que vous comprenez ces choix de vie qui semblent aller à contresens des ambitions professionnelles dans la société? Dans notre pays, les métiers manuels, ou dans votre pays plutôt, les métiers manuels sont-ils suffisamment valorisés? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Aujourd'hui, chez 7 milliards de voisins, tous les sens interdits sont possibles. Il suffit peut-être de réapprendre à rêver. Et d'ailleurs, je dédie cette émission à un ancien directeur de l'information de RFI devenu ébéniste, à Bérangère, assistante radio devenu fleuriste, et à Gilles, ingénieur du son devenu cuisinier. Ça, c'était après un plan social. Je vous lis quelques messages postés sur Facebook des voisins perplexes, tout de même, les voisins. Je vous le dis tout de suite. Eric à Douala au Cameroun, il y a des métiers plus valorisants que d'autres. Banquiers, diplomates, cadres supérieurs sont des métiers nobles qui donnent l'image d'un homme bien, alors que les autres donnent l'image de souffreteux. Voilà. Vous êtes souffreteux, messieurs?
On a l'air,
Bon, vous êtes là pour défendre votre histoire.
Chacun son point de vue, mais qu'est-ce que c'est un homme bien? Est-ce que c'est un notable, ou est-ce que c'est quelqu'un qui tous les matins dans sa glace se dit je fais quelque chose pour moi et pour quelqu'un? Quand j'imagine Olivier répare un ballon d'eau chaude à 1h du matin parce que quelqu'un a eu une fuite d'eau, comme il le dit lui-même, il sauve une vie. Quand nous, on fait une moto sur mesure à quelqu'un, on le ramène en enfance et on lui donne un nouveau stylo pour écrire une autre page de sa vie. Pour moi, il n'y a pas plus noble que ça.
Un autre voisin camerounais, Pelé Ketan Gaoundéré, l'important c'est d'être heureux, mais c'est tout de même révoltant de voir ce qu'ils font avec la chance qu'ils ont eue.
On fait ce qu'on a envie de faire, et je crois que c'est ça qui nous caractérise autour de la table, c'est que on a été dans des parcours professionnels qui nous ont satisfaits pendant un certain temps, et dont on se rend compte à un moment qu'il arrive à quelque chose d'incomplet. Alors, dans ma situation, c'était plutôt le fait de ne pas avoir la maîtrise de tout ce qui se passait. J'ai commencé à connaître des boîtes dans lesquelles le facteur humain était dénigré, mis de côté, les actionnaires, enfin ce qu'on appelle les actionnaires, c'est-à-dire en fait les dirigeants qui représentent les actionnaires ne souhaitent en fait valoriser que leur propre parcours aux dépens et au dépit de tous les autres salariés, et ça m'a paru insupportable. Donc il a fallu que à un moment je dise je ne veux plus participer à ce genre d'aventure et je préfère une aventure à ma dimension, à ma main. Et à ma main dans tous les sens du terme, et j'en suis parfaitement satisfait.
Maîtriser la tuyauterie. Ayaba, qui est à Bamako au Mali, nous dit: moi je travaille dans le monde du développement international, j'ai une situation acceptable mais j'envisage de changer de métier dans quelques années, le temps de bien planifier ma sortie. Je me lancerai probablement dans la mode ou la photographie professionnelle. Encore Diaby, qui est aussi à Bamako, enseignant vacataire à l'université de Bamako: je suis prêt à changer de métier si j'ai un financement. Ma future direction professionnelle sera entre l'élevage et l'industrie. Ou encore Moussa Kaolak au Sénégal: parfois il faut changer de métier pour être libre et travailler avec un esprit tranquille. Rien ne vaut mieux que de travailler pour soi-même. Voilà, vous pouvez nous appeler, les voisins, le standard est ouvert au 33 1 84 22 71 71. Laurence de Créo, vous êtes agrégée de lettres classiques, donc pur esprit plongé dans le latin et le grec. Oui. Vous avez travaillé 15 ans dans l'édition. Pourquoi vous avez eu envie finalement de raconter, de comprendre ces parcours?
Ces parcours de manuel?
Oui.
Bah écoutez, je dirais que c'est par jalousie, parce que je savais que je ratais quelque chose. Je suis très empotée, mais quand je le dis, c'est pas pour faire joli dans le livre. Je suis effectivement très empotée. J'avais des ampoules lorsque je tricotais quand j'étais petite parce que je serrais trop mes aiguilles. Enfin, c'était l'épouvante, quoi. Et c'est vrai qu'à force d'avoir un métier où, finalement, quand on y réfléchit bien, on est beaucoup à avoir un métier où on est assis devant un ordinateur. Mais quel que soit, on peut être littéraire, on peut être physicien, on peut être n'importe quoi, on est assis devant notre ordinateur. Et à un moment, je me suis dit, oh, ça doit être génial quand même d'avoir le corps qui connaît quelque chose, qui connaît une matière. Et je voulais interviewer des gens qui seraient capables de me le dire avec mes mots. Et donc, c'est pour ça que j'ai été chercher des convertis, quoi. Parce que c'était des gens qui avaient fait les mêmes études que moi, qui donc sauraient me parler avec les mêmes mots que je peux comprendre. Et peut-être me faire comprendre cette volupté qu'il y avait à toucher une matière et à la maîtriser, ce que j'étais incapable de faire.
Et comment vous les avez choisis, ces convertis?
Alors, il y en a un qui m'est tombé tout seul sur le nez, c'est Olivier, le plombier ici, que j'ai rencontré dans une soirée. Donc, j'ai vu ce grand type, je me disais, tiens, ça doit être un chirurgien. Et puis, il y en a un copain commun à qui je parlais d'un bouquin que j'aime beaucoup, qui est L'éloge du carburateur, en disant, ah, je rêverais de faire quelque chose sur les intellos devenus manuels. Et il me dit, bah tiens, il y en a un là-bas, c'est justement le grand chirurgien, c'était pas du tout un chirurgien, c'était un grand plombier. Et voilà. Et après ça, ça s'est fait comme ça.
Olivier Berton, donc diplômé d'HEC, la grande école qui mène à grand patron du CAC 40, voire président de la République, hein, monsieur Hollande, bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc dans votre vie finalement pour revenir à la première page avec un CAP de plomberie, ensuite CAP de chauffagiste, enfin ça s'appelle pas exactement comme ça d'ailleurs dans le jargon.
Oui. Alors, il faut voir deux sources. La première, c'est l'intérêt ou l'attrait pour la matière manuelle. Et celle-là, Laurence me l'a sortie du fond du cœur, j'avais un peu oublié, c'est que quand j'étais tout petit, j'avais une passion pour une boîte à outils chez mes parents, qui était en métal rouge, qui s'ouvrait en escalier.
C'est ça, la caisse à outils.
La caisse à outils. Et je passais très souvent et très longtemps du temps à sortir tous les outils, à les nettoyer, à les ranger, à les essayer, à voir ce qu'on pouvait faire avec. Alors, je démontais une prise, un machin. Donc ça a été une espèce de révélation de cette attirance pour ce côté outil qui permet de faire des choses. Ouais. Parce que j'étais très impressionné aussi par ma mère, qui était la bricoleuse de la maison, et qui a toujours tapissé des pièces, changé des joints, fait des choses comme ça.
Et un père bricoleur aussi, d'une certaine façon.
et un père bricoleur. Alors s'il m'entend, il sera pas content. Il n'est pas du tout bricoleur, mais il a un métier.
Chirurgien, voilà. C'est un peu plombier finalement.
Et enfin, ce qui est très important de noter, c'est qu'il a un métier manuel qui nécessite énormément d'intelligence. Et je rejoins ce que disait Fred tout à l'heure. S'il y a un bricoleur, effectivement, dans la famille, c'est mon père, parce que il ne fait que du manuel. Oui. Au sens, ce qu'il réalise, c'est de l'acte manuel avec ses mains.
Ben oui.
En revanche, tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il fait après, c'est de soigner une personne, c'est de la guérir.
Bien sûr.
Et ça, il a besoin de l'intégralité de son cerveau.
Parfois, dans le milieu médical, on dit des chirurgiens orthopédistes. Alors, votre père est chirurgien urologue, mais on dit un chirurgien orthopédiste, c'est un menuisier qui a fait des études.
Ça ressemble à ça. Donc ça, c'était l'attrait pour la partie manuelle, on va dire. Et en revanche, pourquoi est-ce qu'à 40 ans ou 42 ans, on a envie de faire autre chose? Ben, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une incomplétude dans ce qu'on fait et ce que je faisais professionnellement qui faisait que ça n'était plus supportable. Alors je me suis dit, quand est-ce que je vais le faire, ce tournant?
Oui, mais alors ce qui reste quand même très compliqué à comprendre quand on vous voit, vraiment, vous êtes physiquement, vous êtes l'archétype du diplômé HEC, on vous imagine en costume, cravate, etc. Vous n'êtes pas, bien sûr, habillé comme ça. Mais pourquoi la plomberie?
Ça, c'est très simple. C'est un calcul économique. Donc, je ne suis pas un déclassé social et je gagne autant d'argent qu'avant. Et comment j'ai réussi à faire ça? En choisissant le métier manuel qui me permettrait de le faire. Et ça, j'ai regardé dans la typologie des métiers du bâtiment, et je me suis rendu compte que plombier chauffagiste était le métier le plus technique qui existait.
Ça gagne combien de l'heure aujourd'hui?
C'est difficile à dire en tant que ça gagne combien. Un patron d'une entreprise de plomberie qui marche bien.
Non, mais ça gagne comme un prof de maths.
Gagne 100 000 euros par an.
Non,
100 000 euros par an, un patron d'une entreprise de plomberie qui marche bien. Mmh. Voilà, donc c'est une entreprise, c'est pas un plombier.
Vous parlez pas de chiffre d'affaires, vous parlez
de ce qu'il gagne. Je parle de le patron de l'entreprise de plomberie qui marche bien.
Avec des employés.
Avec des employés, bien sûr.
Vous continuez, donc vous avez monté votre boîte, vous faites vous-même là de la plomberie?
Moi je fais de la plomberie, je suis un plombier.
Là en sortant de l'émission
Je suis un patron plombier, c'est-à-dire que je suis le plombier le plus aguerri de ma propre structure, oui.
Frédéric Jourdain, alors vous, rien ne vous prédestine non plus vraiment à la mécanique moto, Subdeco Amiens, concepteur de site internet, et puis donc le CAP de mécanique parce que vous achetez une moto et on vous dit, je sais plus si c'est votre père qui vous dit ça, il va falloir apprendre à la réparer toi-même, ou quelqu'un vous dit ça en tout cas.
Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas acheter une moto de 1961? Et je leur dis, mais j'adore les vieilles motos. Et donc tout le monde me dit, mais elle va tomber en panne, mon père le premier. Mais c'est marrant parce que, comme Olivier, j'avais la prédestination quand il a parlé de son souvenir avec la boîte à outils en escalier, j'ai le même souvenir. Mon père adorait me dire dès tout petit qu'avant même de savoir compter, lui il était très mécano le week-end. C'est un ingénieur de formation, mais il entretenait sa voiture lui-même.
Il adorait le modélisme.
Et il m'a converti au modélisme à l'âge de 10-12 ans, mais avant ça, j'avais 3 ans, je pense, et je l'accompagnais avec un ami mécanicien pour entretenir sa Renault 12 jaune. Et il paraît, il adore le dire, mais je sais pas si c'est vrai, mais que quand il me disait « passe-moi la clé plate de 12 », je lui donnais une clé plate de 12 et pas une clé à pipe de 13. Il paraît. Et par contre, moi, je me souviens d'un truc assez fou, mais c'est ma génération, c'est MacGyver.
Quand le feuilleton américain est
avec Richard Dean Anderson.
Il se débrouille n'importe où.
Avec un couteau suisse. Et donc, mon père, à un moment, de retour d'un voyage, m'a offert ce couteau suisse et je me souviens parfaitement qu'à chaque épisode, le dimanche après-midi, après Jacques Martin, je sortais mon couteau suisse. La musique commençait et je savais que j'allais pouvoir l'ouvrir parce que je mimais ses gestes. Voilà.
Une petite intervention. Moi, j'ai remarqué chez toutes les personnes que j'ai rencontrées le rôle très important du père ou de la mère. Alors, je pense qu'il y aurait de la psychanalyse, on pourrait aller chercher là-dessous, mais c'est incroyable.
Il y a quelque chose dans l'enfance qui remonte
complètement. Et ça prend du temps. Et à 40 ans ou 30 ans, là, ça remonte vraiment.
Alors, on parle donc de ces intellos devenus artisans, et bien évidemment, vous pouvez nous appeler si le cœur vous en dit, ou plutôt si ces trajectoires font ressortir des aspirations personnelles au 33 1 84 22 71 71.
Je veux être belle, mais j'y arrive pas. Dans ma tête, c'est pas la joie. C'est la fête, dehors on danse. On s'embrasse et moi je pense. Je les vois, les jolies filles. Dans les rues, elles me titillent. Leur démarche douce et fragile m'insupporte, ça me rend hostile. Je suis moi. Je suis moi.
C'est Nash, la fille de Chédid, de la dynastie Chédid. Je suis moi chez 7 milliards de voisins. Vous êtes vous-même, effectivement. Laurence de Créo, finalement, vous avez enquêté sur ces intellectuels devenus artisans. De très nombreux diplômés intello ont des hobbies manuels aujourd'hui, mais ça s'arrête là.
Oui, d'ailleurs ça me rappelle ce que j'avais lu sur le site qui parlait des Blitz où je m'étais aperçue avec
customiseur de customisateur, je ne sais pas de moto,
et j'avais décelé, donc je m'étais aperçue qu'il y a, c'était des fous de BMW si je me souviens bien, qui parlaient des Blitz, et il y en a un qui a conclu la discussion, enfin on sentait vraiment un langage très raffiné, enfin c'était vraiment des intellectuels, et il y en a un qui a conclu la discussion en disant oui bah nous on n'a pas eu le courage de faire ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui...
D'ailleurs,
ils jouent avec leurs mains, mais ils ne vont pas plus loin.
Alors, il y a d'autres portraits dans votre livre que nos deux voisins qui sont venus plombiers et réparateurs de motos, personnalisateurs de motos. Il y a par exemple, il y a une fille dont vous racontez l'histoire, Marie-Ange, qui est qui était ex-rédactrice en chef d'un journal scientifique et qui est devenue ébéniste.
Rédactrice adjointe, oui.
C'est ça. Ouais. Et alors, vous écrivez, chez les amis bobos, en revanche, on s'extasie à qui mieux ébéniste, mais c'est merveilleux, j'aimerais tellement faire comme toi. Reste qu'ils n'en font rien et que Marie-Ange est la seule à arborer des ongles noirs au dîner en ville qu'elle persiste pourtant vaillamment à fréquenter. C'est ça, c'est le fantasme universel que personne
manifestement
n'aurait.
Oui, et puis c'est vrai qu'ensuite lorsqu'on fait parler nos amis, et là et que tout à l'heure ils étaient en train de parler qui de leur mal de dos, qui de leur mal de jointure, et Marie-Ange aussi qui me disait maintenant elle pouvait plus prendre des gros meubles parce que c'est quand même un peu trop lourd, il faut passer aux commodes plus petites. Oui,
vous découvrez les limites du corps parce que finalement vous avez appris à travailler avec le corps tardivement par rapport à un jeune qui serait apprenti depuis l'âge de 14-15 ans. Vous savez que aujourd'hui les formateurs disent que les jeunes n'ont pas modelé leur corps à l'effort physique.
Alors d'abord
qui veut répondre,
bah moi parce
Fred.
Que j'ai appris surtout le sens du mot pénibilité dont j'avais tellement entendu parler à l'époque où j'étais directeur du marketing. Alors oui, mon cerveau comprenait ce mot, je pouvais imaginer ce que ça voulait dire. Mais en fait, je n'en avais aucune idée. Maintenant, je sais ce que c'est, je vis avec. Quant au fait qu'on ait modelé nos corps, je suis un plutôt très bon sportif, donc l'effort physique ne m'a jamais fait peur. Je ne suis pas certain qu'en ayant commencé à 14 ans la mécanique, j'aurais pas eu les mêmes problèmes que j'ai maintenant. Moi, j'ai une lombalgie chronique maintenant, et pourtant, j'ai fait 20 ans de hockey sur glace. Donc, muscler son dos, ça a été un quotidien pendant longtemps.
Parce que vous, le geste, c'est quoi? Vous êtes accroupi devant la moto?
Souvent accroupi, et puis surtout, on soulève des moteurs qui pèsent 90 kilos. Donc effectivement, on a des positions de travail qui sont pas les plus adéquates, même si aujourd'hui on a des aides hein, avec les ponts de levage et ce genre de choses. Mais c'est ce qu'on se disait avec Olivier quand on en parlait. Ça vaut notre bonheur, vaut toutes ces peines-là. C'est notre point de vue. Et puis on a cette intelligence de se dire que on va pas se laisser rattraper par la douleur et qu'on va aller la combattre. Donc on va aller voir un ostéopathe, on va changer son hygiène de vie. Et en tout cas moi, à titre perso, c'est ce que j'ai fait. Voilà.
Vous avez remarqué que ce sont tous des couche-tôt.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Vous restez avec nous, Laurence de Créo, Frédéric Jourdain et Olivier Berton, parce qu'évidemment, il faut que vous nous disiez en deuxième partie d'émission après le flash, quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez dit, je vais faire un CAP de plomberie, de mécanique moto, et puis je vais complètement changer de vie. On en parle dans 3 minutes, juste après le flash. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, un télo devenu artisan. C'est un peu le sujet du jour. On en parle avec nos invités. Laurence de Créo, vous publiez L'élégance de la clé de 12. Donc, pour ceux qui ont suivi la première partie de l'émission, c'est bien une clé de bricolage. Je serais en peine d'ailleurs de dire à quoi exactement elle sert. La clé de 12, qui peut nous préciser dans les bricoleurs ou de faire des gestes totalement
ça
après.
Sert à desserrer ou à serrer un écrou. De 12 étant quelque chose qui a une forme hexagonale.
L'élégance de la clé de 12, publiée aux éditions Le Mieux. Et vous avez, Laurence de Créo, pendant des années, réécrit les histoires des autres. Oui. Un rewriter, on appelle ça, ou nègre d'ailleurs. Il y a de la... Enfin non, nègre, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs. On écrit ce que l'autre parle.
Alors nègre, on devient l'autre et on écrit à sa place.
En tout cas, vous dites, il y a de la jubilation à nettoyer une histoire, un récit qui ne fonctionne pas. Donc, artisan sur un chantier d'écriture, vous aussi, même nul avec vos deux mains.
Ah bah c'est exactement la même chose. Moi, je buvais du petit lait en écoutant mes 5 portraiturés parce qu'on fait le même métier. Simplement, bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas de contact avec quelque chose de vraiment sensuel. Quoique, en les interviewant, par la parole interposée, j'ai connu la vibration du bois, la vibration de la clé de 12.
Pour Marie-Ange qui est devenue ébéniste.
Voilà.
La et clé de 12, alors pour Olivier Borton, devenu plombier, c'est ça?
Oui, et puis toi aussi, Fred. Ouais, la clé de 12, tu connais, t'en avais même une en argent.
Voilà. Mécanicien moto, mais surtout, là, vous redonnez vie à des, à de vieilles motos et vous les...
Transformer.
Complètement transformer, relooker aussi. Là, il y a quand même un aspect artistique qu'il n'y a pas dans le métier de plombier, non? Olivier Borton.
Il y a de l'art dans
la... Il y a de l'art dans l'artisan, mais il n'y a pas forcément une vision esthétique, en tout cas.
Et puis, et je voulais dire aussi un mot sur le vitrailliste.
Oui,
parce
c'est
que là, j'ai découvert des choses merveilleuses sur le verre, et notamment que selon qu'on le coupe bien ou mal, il va chanter ou crier.
Alors, celui qui est devenu vitrailliste dans votre livre,
Marc,
qui était auparavant...
Alors, lui, c'est incroyable. Il était ingénieur informaticien, c'est-à-dire la chose la plus abstraite du monde. Et il montre à quel point il y a des connexions profonde entre son premier métier et son second métier.
Donc il est restaurateur de vitraux ou
il en crée aussi, il fait les deux, il peut aussi bien restaurer que créer.
Et puis un viticulteur aussi dans vos portraités, non, il y a
un apiculteur qui fait du miel, qui lui faisait de la philosophie avant.
Oui, je voudrais quand même comprendre Olivier Borton, quand vous annoncez alors que vous êtes diplômé d'HEC depuis longtemps, que vous travaillez, que vous êtes directeur des ventes internationales dans une entreprise de l'agroalimentaire si je me trompe pas, c'est ça. Donc très beau job, réussite sociale. Votre malheur, c'est que finalement, vous avez toujours été excellent élève hein, pour être entré à HEC.
Pauvre garçon.
Il y a peu de cancres hein, qui intègrent HEC. Quand vous annoncez que vous faites un CAP de plomberie, alors que vous êtes encore salarié, parce que vous n'êtes pas jeté là-dedans comme une tête brûlée, mais réaction autour de vous quand même, j'aimerais bien comprendre...
Les réactions de
c'était
gens qui...
C'était le samedi, hein.
Non, mais on commençait à l'époque, donc c'était dans les années 2001, 2, 3, et on commençait à parler de ces gens qui vivaient mal leur situation professionnelle. Donc, entendre quelqu'un de son entourage dire, il faudrait que je pense à trouver une voie différente, voilà, ça commençait à devenir d'actualité, et... Probablement, les gens dans mon entourage envisageaient dans ces cas-là soit de partir vers l'enseignement, soit de partir dans le consultanat, devenir consultant et faire ça de façon indépendante. Et je crois que quand ils m'entendaient dire, ben non, moi je veux créer une entreprise et faire de la plomberie.
Votre père chirurgien, par exemple.
Mon père chirurgien, il était pas ni pour ni contre, bien au contraire. et en revanche, j'ai pris un parachute. Mon parachute, c'est que je ne savais pas si ça fonctionnerait, et donc j'ai choisi de faire en même temps la préparation au concours de professeur. Et en fait, il se trouve que je suis aussi agrégé d'économie gestion. Et j'ai passé l'agrégation pour avoir un parachute ventral, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de devenir fonctionnaire si jamais ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait ce choix en sachant que j'avais du coup toutes les raisons de tenter l'aventure. Je déconseille à quiconque veut changer de vie de le faire sans préparation. Il est important d'avoir de la préparation, du conseil, de l'entourage. C'est très important.
Ça a été votre cas aussi,
Fred. Absolument. D'abord, moi, quand j'ai fait le CAP, j'avais pas du tout vocation à devenir professionnel de la mécanique. Encore une fois, je le faisais pour moi. C'est au fur et à mesure, comme l'a dit Olivier d'ailleurs, que cette espèce de... pas mal-être, hein, parce que c'est bien trop fort, mais en tout cas, cette question a commencé à me tarauder de l'intérieur, en disant, mais est-ce que c'est bien cette vie-là que tu veux? Et puis, la crise financière de 2009 est arrivée.
C'est ça.
Ça a précipité les choses.
2008-2009.
Voilà.
Mais quand même, là, vous avez franchi le pas, parce qu'il y a eu des licenciements, à un moment donné. Il y a eu goutte d'eau qui a fait déborder le vase,
Moi, il y a une goutte d'eau intéressante,
c'est
que
j'étais... Vous avez été licencié, vous aussi, Fred Jourdain?
Non.
Alors, c'est Olivier, vous avez été licencié, à un moment donné, à quoi? 42 ans. Bon, il n'y avait rien de dramatique. Quand on est HEC, qu'on se fait lourder de sa boîte, on sait qu'on rebondit, mais il y a eu quelque chose là qui...
Ben, il y a cette idée que, de toute façon, le système ne me satisfaisait plus et je me voyais pas repartir dans un processus de recrutement, de faire ces entretiens dans lesquels on fait la danse du ventre pour n'importe quoi. Ça ne me paraissait plus possible.
N'importe quoi, c'est dur pour ceux qui y sont.
Eh bien, non pas n'importe quoi quand on est à l'aise dans le système, n'importe quoi quand on n'est pas à l'aise dans le système. C'est-à-dire se dire, je vais retourner dans un système dont je connais les limites, dont je souffre des limites, parce que je crois qu'il y a l'idée de souffrance, elle est intellectuelle, elle est parfois physique. On parle d'aujourd'hui de gens qui ont mal au dos de façon chronique devant des ordinateurs parce que
le stress. Ouais. Voilà.
Et attendez, vous êtes tout aussi stressé sûrement pour votre
pas
métier,
du tout.
Non
alors, alors là, pas du tout. Moi, je suis
mais vous savez pas ce qui va se passer à la fin du mois.
Non, je peux vous dire pourquoi? Parce que je connais ma valeur. Olivier connaît sa valeur. On sait ce qu'on sait faire. Avant, quand j'étais directeur du marketing dans l'internet, j'étais remplaçable. Aujourd'hui, dans la structure que nous avons créée avec mon associé, je suis irremplaçable. Mmh. Et Olivier est irremplaçable, il l'a dit, il est le plus diplômé ou le plus qualifié
de ses employés. Laurence de Créau. Oui, moi ce qui m'a frappé en les interviewant tous, c'est de voir qu'ils aimaient beaucoup leur métier d'avant, mais c'était plutôt les conditions, le système dans lequel ils étaient qui ne leur plaisait plus. Mais quand Olivier parlait du marketing, il jubilait absolument. De même que Marc le vitrailliste, parlant de l'informatique, surtout au début de l'informatique, il trouvait ça merveilleux. Mais il y a un moment où le système devient débile et où ils ont l'impression de ne plus mener quelque chose à son terme, quoi. C'est ça. D'avoir quelqu'un qui pense à leur place, qui les oblige à faire quelque chose, quel que soit d'ailleurs leur poste.
Non, mais il y a en France le syndrome de la réunionite aiguë. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision aujourd'hui, quelle que soit l'action à faire, dans des entreprises dites du CAC 40 ou autres, où il n'y a pas une, deux, trois, 15 réunions. C'est terrible.
Vous parlez d'une imposture des métiers propres, carrément, Fred Jourdain.
Ah mais oui, moi je l'ai vécu, moi. Des gens qui passent leur journée à l'époque sur MSN Messenger et qui ensuite s'arrangent le travail des autres dans les présentations PowerPoint annuelles qu'on présentait aux actionnaires en disant voilà ce que j'ai fait. Et puis alors si ça fonctionnait pas, ils se débarrassaient de la patate chaude parce que dans la communication c'est très facile de dire cette campagne on a investi 100 000 euros, combien on a recruté d'internautes? 50 000, c'est pas assez. Oui mais... Il y a toujours un oui mais. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'imposture. La moto, elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Et si elle fonctionne pas, on peut pas blâmer quelqu'un d'autre, puisque c'est nos seules mains, celles d'Hugo et moi.
Mais vous avez la tyrannie du client.
La tyrannie, non, c'est nous les tyrans. Chez nous, c'est pas une
attendez,
démocratie.
Si votre moto ne plaît pas au client, celle que vous avez complètement relookée,
c'est le seul risque qu'on prend, mais on lui offre la possibilité de la refaire s'il le faut. On a fait à date, sous le nom de Blitz, 52 motos.
Vous n'avez jamais un client qui, passez-moi l'expression, mais non. Qui vous emmerde.
Alors, non seulement on n'a jamais eu un client qui nous dise oui, j'aime pas ce que vous avez fait, mais pire, on a eu une cliente qui a fait un malaise vagal en découvrant sa moto. Voilà.
Pourquoi?
Parce qu'elle elle ne s'attendait pas à un objet aussi beau. Voilà. Vous voyez? Donc, ces satisfactions-là, je les aurais jamais eues dans l'Internet, même si j'avais gagné 15 fois plus, si j'avais eu 15 fois plus de responsabilités. Mmh. Oui, en dîner, j'aurais pu dire, j'ai une équipe de 50 personnes sous moi. Est-ce que c'est ça qui me définit? Non. Aujourd'hui, je peux dire...
Vous êtes tout seul, les mains dans le cambouis, gros.
Et puis surtout, je peux dire, moi, on me donne une moto qui est morte, et tel démiurge, j'insuffle la vie dans cette moto.
J'insuffle la vie. Mais ouais, vous en parlez bien. Vous avez fait du marketing.
Hein. Non, je crois pas.
Olivier Beurton, quand même, HEC devenu plombier, on fait comment pour avoir une crédibilité dans le milieu de la plomberie?
Ça, c'est une vraie question. Et c'est amusant parce que, au début, quand j'ai cherché, je suis un homme de marketing, donc j'ai cherché un positionnement. Un positionnement, ça veut dire, qu'est-ce que fait mon entreprise, pour qui et dans quelles circonstances? Et j'ai voulu être le plombier mondain. Je me suis dit, je vais être plombier mondain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais m'adresser que à des gens qui ont beaucoup d'argent.
Vous utilisez votre carnet d'adresse?
Je vais utiliser mon carnet d'adresse et je vais faire des prestations en chantant, Rossini ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que l'endroit où était installée mon entreprise, dans le 14e arrondissement de Paris, la clientèle mondaine était moins importante que je l'imaginais. Et je suis revenu à des choses très simples. C'est que un plombier doit donner un aspect de plombier, ou un candidat plombier doit avoir un air de plombier. Donc je suis aujourd'hui, de façon très humble, habillé en plombier. J'essaye de ne pas parler de façon trop élaborée.
Vous ne parlez pas comme maintenant?
Pas du tout.
Parce que sinon on se dit, il va me prendre un maximum.
Voilà, le maximum. En revanche, ce que les gens aiment chez le plombier, un peu comme je suis quand même, c'est de l'intelligence. C'est de la capacité à résoudre des problèmes. Et finalement, le positionnement de mon entreprise, c'est des travaux difficiles. Je pense à Fred qui fait des choses difficiles. Nous ne sommes pas des artisans de bas de gamme. Nous sommes des artisans de haut de gamme parce que nous faisons des choses difficiles.
Mais tout de même, vous savez mieux que quiconque dire il faut tout changer, madame.
Oui, mais je sais aussi dire.
Surtout pour une dame qui n'y connaît rien.
Non, parce que ça c'est les escrocs. Les escrocs. Nous, on est là pour dire attention. Ce que vous demandez a des contraintes. Des contreparties qui sont que changer les pneus sur une voiture, ça rend pas la voiture neuve, par exemple. C'est une image que j'utilise souvent. Donc les gens veulent qu'on change des pièces sur des chaudières. Moi, je fais beaucoup de chaudières. Notre métier aujourd'hui, c'est vraiment le chauffage. Et changer des pièces sur des chaudières fait que la chaudière va durer un peu plus, mais elle consomme trop de gaz, cette chaudière. Et la bonne idée, ce serait de changer de chaudière pour avoir une chaudière qui consomme beaucoup moins, comme aujourd'hui on change de voiture pour avoir 5 litres de consommation au 100 km. Garder une voiture qui consomme 12 litres au 100, c'est une absurdité.
Donc il y a du dialogue sur l'intelligence des choix, etc.
Et considérer aussi la situation de la personne qui est, je n'ai pas forcément les moyens d'acheter aujourd'hui cette chose, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter un financement, faciliter...
Et moi j'ai assisté à une conversation téléphonique entre Olivier et un de ses clients. Le client était visiblement affolé, je ne sais plus ce qui lui arrivait exactement, mais je l'entendais à travers le téléphone, à travers le combiné, cette voix complètement affolée, et je voyais Olivier derrière, qui avec sa voix calme, était en train de reformuler. Et tout est devenu clair, transparent. Il a dit, bon, si je résume bien, voilà. Oui, et c'était une clarté totale. Et il y avait un petit côté psy, presque.
En fait, tous les deux, vous êtes retournés sur les bancs de l'école, quand même, pour donc avoir un CAP. Donc vous, Fred Jourdain, en mécanique.
Maintenance mécanique.
Maintenance mécanique. Et pour vous, Olivier Borton.
Installateur sanitaire et thermique.
C'est ça. Et deuxième CAP.
Il y en a un installateur sanitaire et l'autre installateur thermique.
C'est ça. Et autour de vous, vous alliez dans ce qu'on appelle les Greta en France, qui sont pour des adultes qui vont l'équivalent du cours du soir. En l'occurrence, vous, c'était le samedi, je crois, c'est ça. Il y avait beaucoup d'adultes comme vous.
Okay. Non.
Moi, j'ai une seule.
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels cherchant reconversion. En revanche, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas satisfaits de leur métier, probablement plus dans des métiers intermédiaires, des chefs d'équipe ou des choses comme ça, qui, eux, voulaient tâter du métier manuel. Je crois d'ailleurs que, quand on en discute avec Laurence, on est convaincu d'une chose qui manque en France, c'est non pas l'enseignement technique, c'est l'enseignement technique pour des gens qui veulent devenir patrons de ces entreprises techniques.
C'est ça.
Et ça manque.
Apprendre à faire de la menuiserie à HEC, ça serait une bonne idée. Ça. On en reparle dans quelques instants, juste après. Il est 5h, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Dans les tasses et les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris
jolie version. Il est 5h, Paris s'éveille. Anne Pierlet, donc c'est évidemment, ça ne... on a reconnu la chanson de Jacques Dutronc, mais remaniée. Laurence de Créau, vous qui publiez L'élégance de la clé de 12, cette enquête sur ces intellectuels devenus artisans. Vous avez d'ailleurs eu cette idée en travaillant sur des portraits de gens qui se... La France qui se lève tôt.
Voilà, Agis. Donc 5h, Paris s'éveille, c'est même bien avant 5h. Oui, bah, j'ai été envoyée par un directeur littéraire d'une maison d'édition à Rungis pour faire des portraits de grossistes. Et j'y suis allée, mais vraiment en raclant les semelles, parce qu'en bonne empotée, j'ai horreur de faire la cuisine, donc découper une carotte, pour moi, c'est l'enfer. Et je me suis dit, bon, il faut quand même gagner sa croûte, j'y vais. Et là, ça a été la chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est-à-dire un émerveillement total. Une découverte de la sensualité qu'il peut y avoir, justement, dans certains métiers, que vous voyez un grossiste en fromage, ou bien en poisson, ou bien...
Beaucoup de gens qui aiment leur métier, d'ailleurs, en général.
Qui finissent par l'aimer, même si j'ai vu une des plus grandes grossistes en fromage qui m'a dit, mais quand j'étais petite, j'avais horreur du fromage, mais quand on connaît quelque chose, on l'aime. Et ça, c'est merveilleux.
Alors, quel regard vous portez, les anciens, enfin, les intellos devenus artisans, plombiers, mécaniciens, moto, qui est avec nous, Olivier Beurton et Fred, puisque c'est comme ça que vous voulez qu'on vous appelle. Oui. Quel regard vous portez sur, on en parlait juste avant, il est 5h, Paris s'éveille, sur cette France qui n'enseigne pas le travail manuel aux futurs patrons, mais surtout sur ce divorce, mais qu'on retrouve partout dans le monde, soyons honnêtes, sur cette hiérarchie des métiers, sur ce divorce entre la tête et la main.
Alors, si vous voulez bien, moi, je vais juste vous donner mon exemple. C'est que j'ai toujours eu la chance, comme Olivier, d'être bon élève. Et puis, au collège, à un moment, en fin de cinquième, il y a toujours cette orientation avec cette épée de Damoclès où on nous dit, si tu travailles pas bien, tu iras en quatrième technologique. Et donc, bah, j'ai évité, moi, la quatrième technologique. Je l'ai rattrapée à l'âge de 30 ans, mais je l'ai évité à ce moment-là. Et j'ai fait des études dont je suis très fier. Hein. Mais j'ai vu, déjà à cette époque-là, le schisme entre la quatrième... Nous, c'était CPPN, l'acronyme. Mmh. On appelait ça cours préparatoire pour nul. Nous, on disait ça de nos copains. Et en fait, moi, je pense que quand on fait ça et qu'on force ces gens-là à aller dans des voies d'abord qui sont pas forcément les leurs, mais surtout dans lesquelles on leur dit bien qu'ils vont devenir la lie du genre humain en France, bah, ça crée des artisans qui sont pas heureux et fiers de leur travail. Donc, ils ne l'aiment pas. Et donc, ils vont avoir une situation de, une envie de vengeance. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La didactique dont on fait preuve, nous, quand on explique notre métier à un de nos clients, fait qu'il a totalement confiance en nous. Il voit bien qu'on n'est pas là pour l'arnaquer ou lui vendre une chaudière trop chère.
Mais alors, par exemple, vous, Olivier Beurton, vous êtes plombier, vous avez recruté des plombiers parce que vous avez monté une boîte. Hein. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites je gagne autant qu'avant. Mais vous avez un problème pour recruter de bons plombiers
Oui. Le problème pour moi est terrible. Il y a une ignorance en France de ce que c'est que le travail, en fait. C'est-à-dire le fait de faire un effort pour gagner des revenus. C'est ça le travail. Le travail en économie, on appelle ça une désutilité, c'est ce qui nous éloigne du loisir. Voilà, le travail nous éloigne du loisir. Et on pense qu'il n'existe pas de travail possible avec ses mains. Or, c'est fondé sur l'ignorance de ce que ça peut apporter. Moi, je vois autour de moi des artisans, des commerçants, tous ces gens-là, qui n'ont pas forcément fait de très grandes études, ont des niveaux de vie très intéressants. Il est important que, dès la quatrième, on explique à un gamin, une gamine, ce que gagne un coiffeur, ce que gagne un boucher, ce que gagne un électricien, ce que gagne... Et qu'on arrête
mais attendez,
de leur
les jeunes
faire
veulent
croire.
Pas y aller parce qu'ils disent
mais
c'est, un
pas.
Oui, mais ils disent,
travail,
c'est un travail de titan, ils disent
ils
ce
le
sont
le
les métiers de bouche, par exemple, qui sont, c'est un peu la dernière filière qui continue de recruter malgré le chômage tellement omniprésent en France, mais les jeunes ne veulent pas y aller parce qu'ils disent c'est un voilà c'est une vie passée à travailler, des horaires démentiels,
mais si on aime
etc.
ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, si on a la chance de trouver sa valeur par la place qu'on trouve, on comptera pas le nombre d'heures.
Moi, je crois qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que 90% des patrons d'entreprises artisanales sont eux-mêmes d'anciens ouvriers. 90%, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont commencé le métier ne pensant pas faire autre chose que bah, le métier d'électricien, de plombier, de boucher, de machin. Et ils sont chefs d'entreprise. Et ils gagnent très très bien leur vie. Et il faut arrêter de faire croire à tous les enfants qui font des études supérieures qui vont, eux, avoir des revenus. Le déclassement dont nous parlions aussi hors antenne est un problème très réel en France également. Il y a des gens qui ont Bac plus 5 et qui finissent par gagner 1500 euros difficilement au bout de 5 ans.
Voilà. Et vous voyez dans l'édition ce que l'on gagne. Je peux vous dire que ça, par rapport à ce que vous pouvez gagner vous, ça n'a strictement rien à voir du tout. Mais c'est un métier jugé prestigieux.
Et voilà, malgré tout, vous avez du mal à recruter des gens bien formés pour votre entreprise.
Alors, nous avons du mal à recruter parce que notre positionnement de PCEP, c'est du travail, je vous ai dit, de haut de gamme. Donc PCEP, plomberie, chauffage, électricité de Paris. C'est un travail de haut de gamme. Nous avons besoin de gens extrêmement qualifiés, avec beaucoup d'expérience. Nous ne faisons que de la rénovation, nous ne faisons que des situations difficiles. Et il existe dans la plomberie, par exemple, une distinction entre ce qu'on appelle des tuyauteurs, c'est-à-dire des gamins qui sortent du CAP et qui sont capables de poser des tuyaux. Mais ils ne sont capables de faire que ça. Ils posent des tuyaux et ils les soudent. Et c'est, je n'ai absolument pas besoin de tuyauteurs. J'ai besoin de gens qui comprennent la conception compliquée d'une installation qui va fonctionner. C'est là que la tête intervient. Et ça, c'est introuvable. C'est introuvable. Parce que c'est pas à la sortie de l'école que je trouverai des gens comme ça. Je ne trouve des gens comme ça que des gens qui ont déjà une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience et qui, en plus, font usage de leur tête. Voilà. Moi, pour moi, un bon manuel, c'est d'abord un bon intellectuel. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui connaît un petit peu de raisonnement, de physique, de chimie pour
faire ça. Alors, en même temps, là, vous nous racontez une histoire très rose. Vous êtes complètement passionné par votre métier. Ça fait d'ailleurs respectivement combien de temps, là, que vous avez changé de vie, en
11
fait
ans pour moi.
Et 5 ans pour moi.
On a le temps de déchanter. Et vous n'avez pas déchanté.
Pas du tout.
C'est ça. Néanmoins, vous avez quand même conscience qu'il y a des plombiers qui s'ennuient dans leur travail, qui regrettent, qui auraient aimé faire des études, qui auraient aimé précisément avoir le job que vous aviez en sortant d'HEC, non, Olivier Borton? Bon. Et qui eux ne peuvent pas faire l'autre chemin.
Alors, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je ne connais pas de plombier qui voudrait devenir cadre prisonnier de structures matricielles que j'ai connues.
Ah bah
que
oui, Fred a connu. Comme ça, oui, effectivement.
Mais non, c'est la réalité.
Dans l'avion, toutes les semaines, pour une capitale européenne.
On peut pas l'aimer. On a du mal à comprendre. On
peut l'accepter.
Moi, je suis comme Fred. J'ai été sidéré de ces réunions interminables et inutiles dans lesquelles des gens incompétents s'arrangent le travail des autres.
Bien sûr, c'est insupportable.
Voilà, donc on est maintenant dans des situations plus concrètes, mais je ne connais pas ces gens qui dont vous parlez. Je connais en revanche des gens qui voudraient faire un travail manuel sans utiliser leur cerveau. Et ça, c'est un problème, c'est une limite. Nous avons souvent des ouvriers qui ne peuvent pas prendre en compte toute la complexité de la situation dans laquelle ils sont. Parce qu'elle est complexe. Le client est fatigant, la situation est difficile, l'outillage ne fonctionne pas. Enfin voilà, il y a quand même, c'est pas un chemin tracé tout droit, etc. Il y a parfois des difficultés à surmonter. Et ces difficultés, peu de gens sont capables de les surmonter eux-mêmes. Alors, le patron est là pour seconder, mais c'est bien d'avoir des gens qui sont capables par eux-mêmes de surmonter les difficultés.
Mais je crois qu'on ne se doute pas assez de l'imbécilité qu'il peut y avoir dans certains métiers prestigieux. Parce que le milieu est admiré, mais ça peut être aussi bien, je vous dis, l'édition que la télévision ou plein de choses qui font rêver tout le monde. Il y a plein de jobs là-dedans qui sont débiles, mais vraiment.
C'est un miroir aux alouettes, hein. Il ne faut pas se mentir. Et puis au-delà de jobs débiles, il y a encore une fois, voilà, ce problème
pas
d'imposture.
Pas tous, mais il y en a certains.
Oui. Avant qu'on se quitte, un voisin nous appelle. Je vous ai dit que c'était un sujet quand même assez, particulier. Je me doutais bien que le standard n'allait pas sauter, mais on accueille Hakim Elé qui nous appelle au 33-1-84-22-71-71, un voisin qui est en région parisienne. Bonjour Hakim Elé.
Bonjour Emmanuel.
Oui, on vous écoute.
Oui, moi je vais dire en fait, par rapport à vos invités, ils sont chanceux, hein, parce qu'eux ils peuvent choisir de la voie de l'ouvrier, enfin dans le sens où ils ont fait des grandes études, mais par rapport à d'autres petits français, on va dire entre guillemets, qui n'ont pas la chance de choisir leur métier et qui choisissent forcément la voie...
Mais la voie professionnelle, parce qu'ils ont été orientés de telle façon, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc,
c'est votre cas, Hakim Elé?
Oui et non, parce que moi, à la base, je suis secrétaire médicale et moi, je me suis lancée dans le service à la personne. Je me suis lancée toute seule à mon compte et je trouve que c'est assez difficile en fait de se créer un nom, en fait, d'avoir son propre nom dans ce milieu-là. Donc, il y a un manque de considération en général pour les ouvriers en France.
Ouais. Merci beaucoup pour ce message. Justement, le manque de considération, moi, je peux pas m'empêcher de revenir vers le plombier. Alors, le mécanicien moto, il y a une partie artistique dans ce que vous faites, effectivement, avec qui provoque ces coups de cœur de par vos clients. Mais le plombier, quand vous venez faire un devis chez un client, évidemment, vous n'êtes pas considéré comme vous l'étiez autrefois.
Oui, mais je rebondis sur ce que disait Fred. Je suis absolument conscient de ma valeur. Et il y a aujourd'hui personne qui pourra m'enlever ça. Donc, je peux aussi nettoyer des toilettes et être conscient de ma valeur. Ça ouais. ne me pose aucun problème.
Vous aurez une troisième vie ou pas, tous les deux?
Qui sait? Et pourquoi pas?
Oui.
Je pense que la vie continue. Je ne dirais pas que c'est une deuxième vie. C'est une vie qui continue oui. différemment. Et j'espère que la mienne va durer le plus longtemps possible.
Bon, oui. En tout cas, il faut absolument découvrir un petit peu plus vos parcours et puis ceux des autres grâce à votre livre, Laurence de Créau, L'élégance de la clé de 12, enquête sur ces intellectuels devenus artisans. Et c'est publié chez Le Mieux. C'est remarquablement écrit. Merci à vous, Frédéric Jourdain et Olivier Merci. Berton. Vous laisse Merci. Retourner dans vos caisses à outils parce que vous avez des oui. rendez-vous qui vous attendent. Voilà. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Jonas Malé, Solars, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, je vous propose de réécouter l'historienne Diane Ducret. Après le livre qui l'a rendue célèbre, Femme de dictateur, elle publie une histoire du sexe des femmes à travers les siècles. C'est tantôt frissonnant d'horreur, tantôt drôle. Rendez-vous à 10h10, temps universel, sur RFI.